France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il est difficile toujours ce matin d'expliquer pourquoi un employé de la préfecture de la police de Paris a tué 4 de ses collègues hier midi, attaque au couteau. Un cinquième a été gravement blessé. L'assaillant, âgé de 45 ans, lui a été tué par balle dans la cour du bâtiment. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'auteur des faits n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprimait hier soir. Emmanuel Macron a défendu sa réforme des retraites lors d'un grand débat organisé dans l'Aveyron à Rodez hier, devant 500 personnes. Et pendant plus de 3 heures, le président de la République a tenté de convaincre, notamment sur l'épineuse question du regroupement des 42 régimes de retraite en un seul système unique à points. Un système plus juste et transparent, selon Emmanuel Macron. L'Assemblée a voté tard hier soir la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. L'amendement était déposé par la majorité, il a donc été validé, mais contre l'avis du gouvernement qui a aussitôt réclamé une seconde délibération. Bras de fer ouvert entre l'exécutif et la majorité parlementaire, alors que dans 2 jours, la Manif pour tous appelle au rassemblement. L'actualité ce matin, elle est toujours en Irak également, où les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les 4000 manifestants qui avaient bravé le couvre-feu instauré à Bagdad. Après 3 jours de manifestation, au moins 27 personnes ont été tuées, 600 autres blessées. Le Parlement européen a rejeté hier le plan du Premier ministre britannique sur le Brexit. Boris Johnson avait proposé une ultime offre aux instances européennes avec une alternative sur le sort de la frontière irlandaise. Il rappelle que le Brexit aura lieu quoi qu'il arrive le 31 octobre. Et d'ailleurs, en plein débat sur le Brexit, une toile de l'artiste Banksy représentant le Parlement britannique peuplé de singes. Cette toile a été adjugée hier à près de 11 millions d'euros. L'identité de l'acquéreur n'a pas été divulguée.
Viva l'Orchestra. Participez à l'orchestre et au cœur des grands amateurs de Radio France. Pour la première fois, Viva l'Orchestra ouvre ses portes aux chanteurs comme aux instrumentistes pour tous de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France, préparez-vous à jouer et à chanter sur la scène de l'Auditorium de Radio France. Inscrivez-vous entre le 2 septembre et le 13 octobre sur maisondelaradio.fr. Viva l'Orchestra!
Et à 6h03 sur France Culture, pour bien finir cette semaine en ce vendredi matin, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, je reçois Jérémy Moreau qui, après avoir obtenu avec son précédent album La Saga de Grimm le prix du meilleur album, Le Fauve d'Or, au Festival d'Angoulême en 2018, revient avec un autre conte philosophique sur notre rapport à la grande nature. Un récit qui se déroule dans des temps préhistoriques. Pense et les plis du monde. Tel est le titre de ce bel album publié chez Delcourt, un coup de cœur partagé avec Sonia Deschamps du magazine Casemate qui nous rejoindra en fin d'émission. Le Réveil culturel, c'est tous les jours, très tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast ou l'écoute en ligne de ce rendez-vous quotidien de l'actualité de la culture pop, émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son, Olivier Dupré.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jérémy Moreau.
Bonjour.
Et merci d'être venu de Valence pour cette émission. Alors, Pense et les plis du monde, donc c'est Pense avec deux S à la fin. C'est le nom de votre héros de cette nouvelle aventure, un récit de près de 200 pages qui se passe dans la préhistoire, donc à l'âge où les hommes chassaient le mammouth pour nourrir leur clan et se réfugier dans des grottes, la saison des grands blancs. Alors, mais notre héros n'est pas comme tout le monde. Face à la nature, ses mystères et ses déchaînements, le jeune Panse ne veut pas survivre en chassant, mais vivre en intelligence avec la nature.
Oui, exactement. Il n'arrive pas à chasser, ou il ne veut pas plutôt, il passe ses journées à contempler les plis de la rivière, à regarder les nuages, à observer les montagnes. Et jusqu'au jour où il devient un peu indésiré dans son clan.
Elle est productive pour, aux yeux de son clan.
Eh bien, complètement. Un pestiféré, il se retrouve rejeté par son clan. Et donc là, il faut bien qu'il trouve un moyen de survivre pour la première fois. Et tout ce qu'il a observé dans la nature va lui servir à peut-être trouver comment survivre par un nouveau biais.
Alors, vous racontez cette initiation à la nature à travers votre personnage, Panse, comme si ce jeune homme était le premier homme à avoir observé la nature pour mieux vivre en harmonie avec elle. C'est pour ça que vous avez inscrit ce récit dans la préhistoire ?
Oui, ça m'intéressait de retrouver cette espèce d'émerveillement pur et vierge, en fait. Regarder la nature comme on l'a peut-être regardé quand on était enfant, ou même pas, puisque finalement quand on est enfant, déjà il y a des gens qui nous expliquent comment fonctionnent les arbres. Retrouver un espèce d'émerveillement pur, primitif. Qu'est-ce que c'est de se retrouver face à un arbre, face à une montagne, quand on ne sait...
Et comment ça pousse un arbre, et d'où ça vient tout ça?
On ne sait même pas que ça pousse, puisque finalement c'est ça qui reproche aux gens de son clan, qui sont des nomades, qui passent leur temps à courir. Ils ne s'arrêtent pas pour observer la nature, et donc ils ne savent même pas que les arbres poussent, en fait. Et donc lui, par le temps qu'il prend pour s'arrêter, pour observer la nature, finalement il développe une espèce de conscience raisonnée, il commence à comprendre quelques logiques. Il est le premier à voir que finalement, en observant une plante pendant une semaine, elle avance, c'est un petit bout de lierre qui avance. Et donc là, de fil en aiguille, il arrive à découvrir l'idée de germe, en fait, dans la nature. Comment la nature se déplie.
Et pas seulement ça, parce que... Très vite va venir cette idée d'une forêt nourricière. Panse parle de forêt nourricière très vite en disant « ça va nous permettre de survivre sans passer par la chasse ». Alors, on sait bien, Jérémie Oemoro, que ce conte a bien des résonances avec quelques-unes de nos inquiétudes légitimes actuelles, notre rapport à la Terre.
Oui, oui, complètement. Et du coup, cette idée, il l'a en observant des fourmis qui ramènent des petits grains de buis dans leur fourmilière. Et il se dit, c'est quand même merveilleux, ils ont ces buis immenses par rapport à la taille d'une fourmi. Ce serait incroyable de pouvoir, nous aussi, avoir des arbres qui abriteraient des fruits énormes, gros comme des chevaux. Et donc, c'est une première idée, c'est un premier rêve qui lui vient. Et finalement, il va vivre un traumatisme terrible avec sa mère. Il est au bord de la mort pendant un hiver terrible. Et finalement, lui qui contemplait la nature va se retourner contre elle. Et il va se souvenir donc de ce rêve, de ce champ nourricier. Et d'ailleurs, j'emploie pas le mot champ, je dis juste terre, puisque le mot champ implique trop ce que c'est déjà. Et là, il va essayer, il y a une scène avec des champignons hallucinogènes, parce qu'il faut qu'il comprenne comment le germe se déploie. Comment, alors tout ça c'était très compliqué à écrire parce que comment rendre ça
en tout cas, c'est bien rendu graphiquement. On est dans la tête de Panse, y compris quand il gobe des champignons hallucinogènes.
Oui, oui. Et l'idée c'était d'arriver à rendre ça crédible. Donc il se dit comment je peux déplacer un arbre, parce qu'au début il se dit comment je vais faire cette terre nourricière, il faut que je ramène les arbres. Donc il part de la base et puis finalement il comprend que les arbres font des œufs, c'est enfin, ce qu'il croit être des œufs. Donc il tâtonne, et il finit par arriver à faire une espèce de petit bout de champ qui va plus ou moins fonctionner.
Voilà, et puis il rêve d'une forêt qui donnera des fruits, des légumes à tout le monde, quoi.
C'est ça, il a des rêves de rivières, de légumes et tout ça, de résoudre la faim dans le monde. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, tout n'est pas si facile.
Alors, vous avez parlé justement de ce moment tragique, dramatique entre Panse et sa mère. C'est même, vous avez utilisé le terme de traumatique, c'est vraiment le mot qu'il faut. Il va perdre sa mère dans des conditions incroyables.
Est-ce qu'on le dit ?
Vous vous êtes arrangé pour que cette scène, qui est très violente, devienne poétique, philosophique, Jérémy Moreau. Est-ce qu'on peut raconter cette scène? Bah oui, parce que c'est une scène très importante dans l'évolution de votre personnage. Il va perdre sa mère. Et pas seulement.
Il se retrouve rejeté du clan, il se retrouve dans une petite vallée perdue parce qu'ils ont perdu le clan. Ils doivent survivre l'hiver dans une grotte. Et ils n'ont rien à manger. Et donc là, sa mère lui dit, si tu veux survivre... Qu'est-ce que tu vois que tu peux manger dans cette grotte? Eh ben, moi. Je vais te donner mon corps, je vais continuer à vivre en toi, mes pensées continueront de vivre en toi.
Ouais, c'est bon.
Et donc, mange-moi, je t'en supplie, promets-moi que tu me mangeras pour survivre.
Et elle lui dit, ce n'est pas une offrande que je te fais, c'est une requête. Je ne veux pas aller à la terre, je veux continuer à vivre en toi, tu n'en seras que plus fort. Mange mon cerveau et mes pensées seront tiennes. Je veux que tu manges ces mains qui ont tant dépecé d'animaux, ces jambes qui m'ont donné à voir tant de terre, ce ventre qu'il te nourrisse aussi longtemps qu'il m'a nourri, moi. Je veux que tu doubles ton cœur du mien et qu'il batte à l'unisson pour les âges à venir. C'est le moment le plus dur de cette histoire, parce qu'on sent que la mère est en train de mourir, et elle demande, elle supplie son fils de faire cette chose horrible, c'est-à-dire de manger sa mère. Pourtant, c'est dit d'une manière subtile, intelligente.
Oui, bah, il fallait donner envie de qu'elle soit mangée. C'est surtout, il fallait un moment dans l'histoire fort pour lancer l'aventure, en fait. C'est de là va naître le traumatisme, et de là va naître son envie d'affronter cette nature. Puisque jusque-là, il la vénérait peut-être plus que les hommes, il trouve les montagnes plus belles, et là, tout d'un coup, il se retrouve donc à manger sa mère, puisque du coup, dans la scène suivante, là aussi, ça n'a pas été facile. Il ne va pas la manger comme ça. C'est des forces. Il va avoir tellement faim qu'il y a un moment donné où c'est la survie qui va le pousser à la manger. Oui, c'était un moment très important parce que c'est ce qui lance l'histoire. Et donc, je voulais garder ce moment très poétique où il hésite. Évidemment, il ne va pas se jeter sur elle pour la dévorer. Mais il va hésiter. C'est la survie qui va le pousser à la dévorer.
Et en quoi cet événement va être un événement fondateur dans ce qu'il va faire plus tard, pense ?
C'est le moment de bascule où, en fait, il cesse de voir la nature comme quelque chose à contempler, comme quelque chose de beau. Et il se dit, mais cette nature, elle laisse vraiment faire des choses comme ça. Il y a des choses aussi terribles qui sont permises dans ce monde. Et donc, il se retourne contre elle. Et c'est à partir de là qu'il va se dire, eh bien, je vais la tordre, cette nature. Je vais la plier à mes désirs. Je vais la contraindre et je vais lui arracher les fruits et tout ça. Et en philosophie, Descartes dit que c'est le moment où nous nous sommes fait maître et possesseur de la nature. Donc, c'est ce point de bascule entre la vénération et tout d'un coup, il veut la tordre, la maîtriser, lui extirper ce dont il a besoin pour survivre.
Et lui qui a été obligé de faire ce qu'il a fait, il va décider de ne plus manger de viande aussi. C'est le premier végétarien de l'humanité, pense.
C'est le premier plein de choses. Voilà. Premier philosophe, premier scientifique.
Et votre double, même s'il vit dans des temps lointains et préhistoriques?
Ah, oh non, non.
Vous n'avez pas le même rapport
Alors, je serais incapable d'inventer l'agriculture. D'ailleurs, c'était un petit peu le problème du livre. Je ne me sentais pas forcément légitime de parler de ça, puisque je suis très nul. Hein. Toutes mes plantes crèvent à la maison.
Mais êtes-vous végétarien, comme pense
je mange de la viande au restaurant, mais pas chez moi. Je n'achète pas de viande en supermarché, en tout cas.
Le réveil culturel.
Personnage de votre aventure, de cette dernière histoire, c'est Cré, celle qui parle aux esprits.
Oui, donc c'est la jeune fille qu'il va rencontrer. Donc il a son projet de chant, et en fait il ne pourrait pas arriver à faire ce projet-là, puisque ça demande trop de main-d'œuvre. Et dès l'hiver suivant, en fait, le champ est recouvert de neige, et il va rencontrer un nouveau clan qui va passer l'hiver avec lui, un clan qui est à la déroute, qui est en train de mourir à petit feu et qui va s'accrocher à son rêve. Et parmi ce clan, il y a une jeune chamane qui s'appelle Cré. et qui va plus ou moins s'en amouracher, s'en amourer de...
C'est l'histoire d'amour de votre histoire.
C'est l'histoire d'amour. Elle aussi est quelque part un petit peu une marginale, c'est une espèce de junkie de la préhistoire. Elle prend des graines sacrées pour voir les esprits dans le ciel. Pense, lui, dit qu'il voit les plis du monde dans la terre. Elle voit comme un espèce de grand orage de plis comme des éclairs dans le ciel. Donc, il se retrouve assez bien là-dessus. Ouais. Et il se retrouve dans une scène, là aussi, j'essaie de créer des scènes un peu poétiques. Donc, il se retrouve dans une petite partie de la grotte à concrétion. Et où, du coup, ils vont faire l'acte créateur.
Ils vont aussi s'aimer. Mais c'est un mariage de la raison et de la spiritualité. C'est la rencontre de celui qui observe ce qui l'entoure et de celle qui croit à ce qui nous dépasse.
C'est ça. C'est un peu Platon et Socrate qui se retrouvent dans le même lit. Platon, donc le ciel des idées, ça serait plutôt Crée. Et puis celui qui regarde la terre pense.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Porté par l'allégresse et la douceur de vivre, l'été qui commence, la rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule. Un coin et observant de loin la foule qui ondule, mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible. La pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres.
Jérémy Moreau est avec nous à l'occasion de la sortie de sa dernière bande dessinée éditée par Delcourt, Pense et les plis du monde. C'est le titre de cette bande dessinée où l'initiation à la vie et à la nature d'un jeune homme qui refusa et qui a toujours refusé de chasser comme le font les hommes de son clan. Il veut lui plutôt comprendre la nature pour mieux l'affronter, ensuite mieux la façonner et la détourner pour son usage. On est dans des temps préhistoriques et rêve de faire pousser des forêts nourricières. Encore un héros solitaire mais avant-gardiste. Pense, il ressemble un peu à Grimm, l'orphelin plein de colère de votre précédent album, Jérémy Moreau, lui qui était inscrit dans le Moyen-Âge. Mais alors pourquoi justement vous prenez toujours une distance avec le temps pour raconter vos histoires, le Moyen-Âge, puis la préhistoire pour cette dernière bande dessinée? Pourquoi choisir ces temporalités?
Oui, c'est ce qui me vient le plus naturellement. C'est marrant parce que quand j'ai commencé la bande dessinée, Wilfried Lupano m'avait proposé Le singe de Hart les poules et j'avais dit « Ah non, 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 c'est une bande dessinée historique, c'est pas pour moi, moi j'ai envie de traiter des sujets actuels ». Et puis en fait, avec le temps, ça me... c'est l'argument classique, mais ça permet d'avoir une distance pour traiter de certains propos. Et je crois que l'époque actuelle me déprime tellement. Et je sais pas, j'arrive pas à trouver de biais par lequel l'attaquer. Il n'y a pas le recul de l'histoire encore pour traiter de certains sujets.
Pourtant, dans vos deux bandes dessinées, même la dernière, pense, c'est notre rapport à la nature qui est au centre de votre propos.
Et oui, évidemment, je reviens vers des thématiques contemporaines par le truchement de, du coup, d'époques plus éloignées. Et, mais bon, mais après, la préhistoire, c'est pas une époque facile non plus. C'est un peu une histoire hors du temps. J'ai eu beaucoup de peine à écrire certains passages, puisque on peut pas s'appuyer sur des sagas comme quand j'avais travaillé sur les sagas islandaises dans la saga de Grimr.
Grimr, ouais.
Grimr, oui. J'ai appris à le dire. On peut pas s'appuyer sur un patrimoine culturel. On peut même pour le langage, pour faire parler mes personnages, il y a la question de
Il y a le plaisir de dessiner quand même les mammouths.
Oui, après, au niveau du dessin, mais je veux dire, pour ce qui vient de l'inspiration pour créer des scènes, il y a peu d'accroches en fait. On est perdu dans la nature. Bon, bah voilà, je fais une scène avec la grotte, une scène avec le mammouth. Et donc, je pense que c'était un des gros défis de l'album.
Et puis aussi, parler de philosophie. Ça laisse l'espace pour la philosophie. Hein. Vous citez Spinoza, Deleuze, Jérémy Moreau.
Oui, complètement. Bah, ça correspond à un moment donné de ma vie où j'ai écouté beaucoup les cours de Gilles Deleuze à la Sorbonne et où je suis tombé sur ce fameux cours du pli. Leibniz, c'est le pli. Et ça m'a complètement fasciné, retourné le cerveau. Et je me suis mis à voir du pli partout, en fait. Donc peut-être un petit mot sur ce cher Leibniz et le pli chez Deleuze. En gros, c'est une conception, c'est une vision du monde où il troque l'atome, en fait, pour expliquer la plus petite particule de la matière. Il troque l'atome contre le point, ce qu'il appelle le point d'inflexion, et donc il appelle ça le pli. Donc, il imagine que l'atome, ça s'effriterait comme du sable, et donc il faut imaginer la matière comme une immense feuille qui serait repliée à l'infini. Et ces plis infinis créeraient les roches, les rivières, les montagnes, et donc ça c'est ce qu'il appelle les plis de la matière. Et après il va plus loin, il va y avoir le pli qui est traversé par une force, cette force qui est un vitalisme, et c'est ce qu'il appelle le pli organique. Et à partir de là, il crée le concept de germe, le germe et le pli organique, c'est-à-dire quelque chose qui est infiniment replié et qui se déplie, comme l'arbre. Et bon, bref, le cours est extrêmement compliqué. Après, ça part dans les plis de l'âme. Et je me suis mis à avoir du pli partout. Et finalement, ce personnage de premier philosophe était le meilleur moyen d'exploiter ce fameux cours.
Et les plis du monde.
Et les plis du monde.
D'où le titre, pense, et les plis du monde. Vous êtes aussi jeune que vos héros en papier, Jérémy Moreau, et vous avez commencé tout petit à dessiner dès l'âge de 8 ans. Vous vous inscrivez au concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême. D'ailleurs, vous avez même décroché en 2012 le prix du jeune talent au festival d'Angoulême. Sonia Deschamps est avec nous ce matin. Bonjour Sonia.
Bonjour à
ravi
tous.
Ravie de vous retrouver.
Ravie aussi.
Alors Sonia, Pense et les plis du monde n'est bien évidemment pas le premier album de notre invité, même si il est très jeune. Jérémy Moreau, vous avez quel âge? Vous avez 30 ans?
Ah, c'est le moment où on ne sait plus trop. 32.
Bon, voilà. Alors, dites-nous, quels sont les précédents livres ou albums de Jérémy Moreau à découvrir absolument?
Eh bien, écoutez, Toufik, c'est assez simple. Tous. En toute objectivité, tout simplement, tous les albums de Jérémy Moreau sont à lire. Un sans faute. Le singe de Hartlepool, c'est avec cette première bande dessinée qu'on vous a découvert, Jérémy Moreau. C'était en 2012, scénario de Wilfried Lupano.
Auteur, entre autres, des Vieux Fourneaux.
Et on le rappelle, hein, le singe de Hartlepool, c'est une histoire inspirée d'une légende anglaise, l'histoire d'un singe que les Anglais, durant les guerres napoléoniennes, trouvent échoué sur la côte. Comme c'est la mascotte de l'équipage, l'animal porte un uniforme tricolore. Et comme dans ce petit village d'Angleterre, les gens n'ont jamais vu de Français, ils vont prendre l'animal pour un Français, l'accuser d'espionnage et le juger. Et tout de suite, le charme opérait. Et parmi les lecteurs impressionnés, David Prudhomme, un auteur de bande dessinée dont vous appréciez, je crois savoir, Jérémy, beaucoup le travail. Voilà ce qu'il s'est dit en découvrant votre singe de Hartlepool, je le cite. Ronald Searle adouci, maîtrise graphique et narrative, belle caractérisation et expression des personnages, super couleur, classe, quelle maturité. Et en lisant Le singe de Hartlepool, on ne remarquait pas juste que c'était une bonne bande dessinée. Déjà, on se disait, ah, ce dessinateur, il va nous impressionner.
Attention, dessinateur et auteur, puisqu'après Le singe de Hartlepool, Jérémy Moreau a publié Max Winson, dont il a assuré dessin et pour la première fois donc scénario.
Dans un style graphique totalement différent, les dessins de cet album sont nourris d'influences multiples. Winsor McKay, José Muñoz, Okusai aussi. On peut également voir l'influence du manga dans le découpage, la rythmique de cet album. Max Winson, je le rappelle, c'est l'histoire de ce jeune joueur de tennis qui n'a jamais perdu de match de sa vie, qui a été complètement tyrannisé par son père qui a voulu en faire le plus grand champion de tous les temps, et qui va devoir gagner sa liberté en perdant un match. Un album plein d'humour, de poésie, sur fond de spectacle, de compétition et d'émancipation. Dans l'exposition qui vous était consacrée l'année dernière à Angoulême, vous nous refaisiez vivre les premiers instants de ce projet, Jérémy. 29 janvier 2013, monsieur l'éditeur, c'est LE projet du siècle. Vous ne pouvez pas le rater. 300 pages, noir et blanc, sur le tennis, ça va être dingue. Risqué ? Mais pas du tout. Oui, alors, j'ai encore jamais écrit de scénario de plus de 3 pages. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis un génie dans ma tête.
Comment il vous a cru ?
12 avril 2013, réponse de l'éditeur. Allô Jérémy, on vient de recevoir tes premières pages. Ça va pas du tout. Tous les personnages parlent de la même façon, c'est désordonné. Je sais pas quoi te dire. Ah si, appelle Wilfried. Résultat, un album extrêmement réussi, fort et émouvant.
Donc réalisé avec les bons conseils de Wilfried Lupano. Et puis arrive la fameuse consécration, la saga de Grimr, qui vaut à l'auteur le Fauve d'or à Angoulême en 2018.
Fauve d'or à 30 ans, avec l'histoire donc de cet orphelin aux cheveux rouges qui doit beaucoup au documentaire La Soufrière d'Herzog et à La Cloche d'Islande de Laxness, entre autres. Fauve d'or, point d'orgue d'une longue histoire avec Angoulême. Toufik, vous l'avez rappelé, à partir de l'âge de 8 ans, Jérémy, vous avez participé tous les ans au concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême.
Encore lui, c'est toujours lui, il revient.
Vous l'avez finalement gagné, ce concours de la BD scolaire en 2005, puis gagné aussi le concours Jeune Talent en 2012. Aujourd'hui, vous publiez « Pense et les plis du monde ». C'est le premier album, Jérémy Moreau, dont vous n'avez pas envoyé le scénario pour avis et conseil à Wilfried Lupano. Quand je lui ai demandé le regard qu'il portait sur votre parcours, voilà ce qu'il m'a répondu. Jérémy est un des rares auteurs que je trouve totalement à sa place dans son art. Il ne pourrait pas faire autre chose, selon moi, même s'il a pu se rêver, gesticulant dans un petit short blanc de tennisman professionnel. Il a cette capacité précieuse à remettre tout son art à plat à chaque nouveau projet. On ne sait jamais où il va nous emmener dans son prochain livre, ni sur le fond, ni dans la forme. Mais on a en revanche une certitude, c'est que son meilleur bouquin, ce sera le prochain. En voilà une belle promesse.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Pense et les plis du monde, la dernière bande dessinée de Jérémy Moreau, notre invité ce matin, est éditée par Delcourt. Merci d'être venu de si loin, de Valence, où vous vivez depuis quelque temps, non, déjà ?
Eh oui, ça fait 7-8 ans qu'on y est. Voilà. Ça passe vite.
Bon. Et c'est la vie, vous êtes entouré d'arbres et de verdure ? Comme les personnages de vos bandes dessinées.
Mais j'ai entièrement écrit l'histoire quasiment depuis un petit parc où je vais promener ma fille pour la sieste. Ça a été très salutaire pour l'écriture.
C'est vrai, parce que comme pense, vous êtes un jeune papa, Jérémy Moreau. Félicitations.
Tout à fait.
Merci Sonia Deschamps d'être passée.
Avec plaisir.
Et on se retrouve très prochainement. On se retrouve lundi autour du dernier roman de Valentine Gobi-Muren, édité chez Actes Sud. Bon vendredi, bon week-end sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, témoigner, décrypter, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
C'est probablement l'une des plus grandes plumes du XXe siècle, George Orwell. On évoque sa mémoire en compagnie de son fils ce vendredi dans les matins.
Les matins de France Culture, ce vendredi dès 7h et sur franceculture.fr.
Tu es étudiant ? Rejoins le jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama.
Découvre 5 romans.
Rencontre les auteurs partout en France.
Et élis ton coup de cœur.
Pour t'inscrire, envoie la critique du dernier roman que tu as lu avant le 7 octobre.
Toutes les infos sur franceculture.fr et telerama.fr.
Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal.
Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comment et pourquoi un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris a-t-il pu tuer 4 de ses collègues? Au lendemain de l'attaque au couteau, les questions demeurent. La femme de l'assaillant est toujours en garde à vue ce matin. Nous reviendrons sur l'enquête dans un instant. Nous irons aussi en Italie après l'annonce de surtaxes américaines sur certains produits européens. Rome ne s'en sort pas si mal, vous le comprendrez. Et puis nous vous expliquerons comment un tétraplégique a pu se mouvoir grâce à un exosquelette, une première réalisée par des chercheurs français. Emmanuel Macron a fait observer une minute de silence hier soir à la mémoire des 4 policiers tués par un de leurs collègues à la préfecture de police de Paris. La femme du suspect est toujours en garde à vue ce matin. Lui a été abattu hier dans la cour de la préfecture. Que sait-on maintenant de lui, Julien Pasqualini ?
Cet homme de 45 ans était informaticien au sein de la direction du renseignement. Il travaillait depuis plus de 20 ans à la préfecture de police de Paris et il n'avait jusque-là jamais donné le moindre signe d'alerte, jamais présenté de difficultés de comportement selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. On sait aussi que cet homme s'était converti à l'islam il y a un peu plus d'un an, mais il faut rester très prudent. Aucun lien n'est établi entre sa conversion et son passage à l'acte. Rien n'indique pour le moment qu'il était radicalisé. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi, même s'il suit de près les investigations. Pour l'instant, ce sont les policiers de la brigade criminelle qui enquêtent. Ils ont perquisitionné le domicile du suspect dans le Val-d'Oise. Sa femme a été interpellée et placée en garde à vue. Et puis ses collègues doivent être entendus pour en savoir un peu plus sur sa personnalité.
L'enquête débute donc pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et il faut rester très prudent sur les motivations de l'assaillant. C'est ce que martelait hier encore David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française.
Quand on regarde les faits et qu'on est sur un périple meurtrier comme celui auquel on vient d'assister, il faut en exiger aucune. Je veux dire qu'il faut laisser le temps à l'enquête d'aller faire les investigations les plus complètes possibles pour ensuite commencer à éventuellement évacuer telle ou telle piste. Et je crois qu'au moment où on se parle, il faut en évacuer aucune. La nature même des faits, le mode opératoire et l'extrême violence doivent nécessiter la plus grande prudence par rapport aux raisons qui l'ont amené à commettre cette barbarie. Je pense qu'il faut être très prudent. L'enquête va aller de façon très approfondie dans la vie personnelle et professionnelle de cet agent. Et il faudra qu'on voit s'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont pu faire de lui un profil qui n'aurait pas été aperçu. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas quelque chose que j'affirme. Je dis juste qu'il ne faut pas évacuer cette hypothèse-là, ce serait bien imprudent.
David Lebars au micro d'Antoine Marette. On va fixer des règles d'or. Emmanuel Macron s'est efforcé hier soir de rassurer sur la réforme des retraites. Il était à Rodez dans l'Aveyron pour un débat qui a duré près de 3 heures avec 500 Français. Le niveau de vie des retraités ne doit pas être dégradé, il doit être le même et même continuer à progresser. Voilà ce qu'a notamment dit le chef de l'État. Autre chantier du gouvernement, la lutte contre le réchauffement climatique. 150 personnes tirées au sort vont débuter aujourd'hui leurs travaux au sein de la Commission citoyenne pour le climat. Une sorte de réponse du gouvernement aux Gilets jaunes. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui lancera cette convention à partir de 14h tout à l'heure. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France presse les autorités à négocier. Elle s'inquiète en fait de la hausse future des taxes américaines sur le vin français. Donald Trump l'a annoncé il y a 2 nuits. Avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, cette hausse de droits de douane va toucher toute l'Union européenne et notamment la France ainsi que l'Italie, Bruce de Gelsin.
Le parmesan pourrait coûter $45 le kilo contre 40 aujourd'hui aux États-Unis. La plus grande fédération agricole italienne a fait ses comptes. Sur 500 millions d'euros d'exportation, les pertes sont chiffrées à 10 voire 15%. Mais cela dépendra de la réaction du consommateur américain, Lorenzo Bazzana de la Fédération Agricole Coldiretti.
D'un côté, certains peuvent dire « Non, moi j'apprécie ce produit et je peux dépenser un peu plus pour l'acheter. » Mais il peut aussi y avoir la version patriotique. Moi, je ne l'achète plus.
Mais même si les pertes sont moins fortes qu'estimées, Lorenzo Bazzana estime que l'Italie n'a pas à être taxée. Et pour une bonne raison.
On met des droits de douane parce que certains ont donné des subventions à Airbus. Mais l'Italie n'a joué aucun rôle dans Airbus.
L'Italie s'en sort mieux que ses voisins. La mozzarella, l'huile d'olive, le jambon d'appellation contrôlée ne seront pas taxés. Le vin non plus, ce qui fait même dire à la Fédération agricole, Coldiretti, que le vin italien pourrait en profiter puisque son concurrent français, lui, devrait être taxé.
Et nous nous pencherons justement dans le journal de 7 heures sur les conséquences de ces surtaxes américaines, sur les conséquences en France. L'état d'urgence a été déclaré en Équateur par le président Lénine Moreno. Un peu plus tôt hier, des manifestants avaient fortement protesté contre la hausse des prix du carburant dans le pays, incendiant des barricades, lançant des pierres contre les forces de l'ordre. Cette semaine, Lénine Moreno a annoncé que son gouvernement allait supprimer des subventions au carburant pour réduire le déficit budgétaire de l'Équateur. Des manifestations pour plus de pouvoir d'achat, c'est aussi le cas en Irak, où là les affrontements avec les forces de sécurité ont fait au moins 27 morts en 3 jours. Hier, 4000 personnes ont bravé le couvre-feu à Bagdad. C'est une prouesse technologique qui sera présentée à la presse lundi prochain au centre de recherche biomédicale Clinitech à Grenoble. Une revue scientifique américaine en publie déjà les résultats cliniques ce matin. Et sachez donc que pour la première fois, un homme tétraplégique a pu se déplacer et contrôler ses mains grâce à une neuroprothèse, Véronique Pueyo.
Thibaut, 28 ans, est tétraplégique. En juin 2017, deux petites plaques de quelques centimètres carrés bourrées d'électronique ont été implantées sur les deux hémisphères de son cerveau, juste sous la boîte crânienne, sans qu'aucun fil ne dépasse, une matrice qui n'a pas été rejetée par son corps. Le jeune homme s'est ensuite entraîné durant plus de 2 ans pour contrôler l'exosquelette, une sorte d'armure qui lui permet de se tenir debout. Pour faire simple, quand il pense le mouvement, son cerveau émet des ondes électriques. Elles sont captées par la neuroprothèse qui les analyse et qui transmet ses signaux à l'exosquelette qui lui permet de bouger ses membres paralysés. Le patient a ainsi été filmé en train de faire quelques pas et de porter un verre à sa bouche. Bien sûr, les gestes ne sont pas fluides, mais c'est une première mondiale. Pour l'équipe de Clinatech qui travaille sur ce dispositif, c'est une avancée importante vers l'autonomie pour les personnes handicapées. L'ambition à terme est de décliner cette interface cerveau-machine pour le pilotage, par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé.
Véronique Pueyo de France Bleu Isère pour France Culture. La Cour de cassation rend aujourd'hui sa décision sur un cas de GPA, de gestation pour autrui. Le cas de jumelles nées par GPA en Californie aux États-Unis il y a 19 ans. Un dossier qui soulève la question du statut en droit français de la mère d'intention. Alors qu'hier, la majorité a fait voter à l'Assemblée nationale un amendement à ce propos. Il acte la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA. Le gouvernement s'est positionné contre cet amendement et a aussitôt réclamé une seconde délibération, malgré le premier vote donc de la majorité. La direction de General Electric se dit disposée à réduire de 150 au maximum le nombre de postes supprimés sur le site de Belfort. Initialement, 792 emplois devaient être supprimés, 50 de moins donc au maximum, dit finalement la direction. Les syndicats craignent une réduction drastique des acquis pour les salariés qui resteraient sur le site. Une fois n'est pas coutume, un nouveau journal de presse écrite arrive en kiosque ce matin. La Croix Hebdo, déclinaison hebdomadaire du quotidien La Croix, édité par le groupe Bayard. À l'heure du tout numérique, La Croix Hebdo fait le pari de proposer un rendez-vous de lecture sur papier pour fouiller les sujets. Son directeur Guillaume Goubert nous explique sa stratégie.
Il faut quelque chose de plus que le numérique pour nouer des relations soutenues avec des lecteurs. Cet hebdomadaire, c'est un peu le chaînon qui est nécessaire entre le quotidien papier et l'abonnement numérique. Nous pensons que beaucoup d'abonnés numériques, et nos abonnements numériques se développent très rapidement, nous approchons les 20 000, mais il faut les fidéliser, leur taux de fidélité n'est pas très élevé, il est de l'ordre de 50%. Nous pensons qu'un rendez-vous hebdomadaire sur papier est de nature à les fidéliser, avoir toute la semaine le flux de l'info sur son téléphone portable, sur sa tablette, sur son ordinateur, et une fois par semaine, un rendez-vous de lecture, un rendez-vous qui permet de se poser, d'aller à fond dans des sujets.
Guillaume Goubert, le directeur de La Croix, interrogé pour France Culture par Stanislas Vazak, il était l'invité du journal de 22h hier soir sur France Culture. La presse écrite encore, Emmanuel Macron qui va visiter aujourd'hui le siège du journal La Montagne à Clermont-Ferrand. Le quotidien fête ses 100 ans, un événement dans la presse écrite à l'heure où justement les quotidiens régionaux et nationaux sont soumis, je vous le disais, à une vive concurrence d'Internet, concurrence sur les réseaux sociaux notamment. Le temps sera pluvieux. pluvieux ce vendredi sur le nord et l'est de la France, nuageux sur le reste du pays. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 14 à Lille, 15 degrés à Amiens, 16 degrés à Rennes et 22 en Corse. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, dans votre journal des idées ce matin, vous revenez sur le baromètre pauvreté pour l'année 2019, dévoilé par le Secours Populaire avec l'Ipsos. Problème de logement et difficulté d'accès aux soins, les chiffres, Jacques, sont en hausse.
Et oui, et le poids des dépenses fixes pèse de plus en plus dans le budget des ménages. Un tiers des personnes interrogées, 32%, plus 5 points, peinent à payer leurs factures d'énergie. Les loyers ou les emprunts mobiliers pèsent trop lourd pour 28% des ménages. La situation est devenue critique pour 55% des personnes dont les revenus sont les plus bas, soit 10 points de plus en un an. Dans son livre paru chez Lux sous le titre « Avis d'expulsion », enquête sur l'exploitation de la pauvreté urbaine, le sociologue américain Matthew Desmond relève que pendant des décennies, nous nous sommes surtout concentré sur le travail, l'assistance publique, l'éducation et l'incarcération de masse, mais que nous avons échoué à appréhender à sa juste mesure le rôle fondamental du logement dans la création de la pauvreté. La fabrique, son enquête plonge dans le quotidien disloqué de 8 foyers des quartiers pauvres de Milwaukee, dans le Wisconsin, des familles noires ou blanches engluées dans le processus d'expulsion. Là, comme ailleurs dans le pays, la majorité d'entre elles consacrent plus de la moitié de ses revenus au loyer et pour au moins un quart d'entre elles. Cette part dépasse les 70% pour le loyer et l'électricité. Le phénomène des expulsions a acquis une ampleur considérable depuis qu'entre 2005 et 2011, les loyers ont connu une augmentation fulgurante. Chaque année, des millions d'Américains sont expulsés et à Milwaukee, 16 familles sont délogées tous les jours par la justice. Les conséquences sont nombreuses et souvent irréversibles. Perte de leurs biens, parfois de leur emploi, séquelles psychologiques et pour les enfants, une instabilité scolaire qui ruine leurs chances de réussite. Bref, un cumul de ce que les chercheurs en sciences sociales nomment les difficultés matérielles, une mesure de la structure de la précarité, nourriture, accès aux soins et même aux aides sociales qui sont refusées aux familles expulsées. La stabilité résidentielle engendre une sorte de stabilité psychologique qui permet à son tour de s'investir chez soi et dans ses relations, souligne le sociologue. Elle favorise le lien social et incite à prendre soin de son quartier. Matthew Desmond suggère quelques pistes pour sortir les familles du cycle infernal des expulsions et notamment d'élargir l'aide au logement tout en encadrant les loyers, condition pour que l'extension de cette aide ne revienne pas à demander aux contribuables de financer les profits des propriétaires. Il rappelle que dans l'histoire des États-Unis, les hausses de salaire obtenues par les ouvriers ont toujours été suivies par des hausses de loyers, contribuant au maintien de la pauvreté et illustrant, par rapport à la fable du ruissellement de la richesse, une forme bien réelle de ruissellement par le bas. La dernière livraison de la revue America propose un dossier sur l'Amérique des marges. Lee Stringer évoque le problème des sans-abri qu'il a lui-même vécu. Il invite à changer le point de vue sur les pauvres, trop souvent ramenés à une sorte de négligence à leur égard dans un contexte d'immense richesse. Il pointe les réductions d'impôts massives, les restrictions infligées aux programmes sociaux, la chute drastique des constructions de logements abordables, car selon lui, l'extrême pauvreté est en fait le moyen par lequel une certaine élite s'est aussi enrichie. Et du coup, il invite à changer de focale. Les nouveaux riches n'en sont pas arrivés là en progressant dans on ne sait quelle prospérité abstraite, se montrant ensuite cruellement radins vis-à-vis de leurs inférieurs. Il faut, selon lui, envisager le problème des sans-abri comme un symptôme et en traiter les causes. L'écrivain raconte aussi comment il s'en est sorti en vendant un journal fait par les sans-abri, Street News, puis en lui donnant des textes. La revue Jeff Clack a posé le pied à terre pour son 6e numéro, se poser, lever le pied. Le collectif qui l'anime a entrepris une forme d'auto-analyse, on l'espère, pour repartir du bon pied. Il y est aussi question d'habitat précaire, guerre ou du mouvement des sans-terre en Amazonie avec, au beau milieu d'une occupation dans l'état du Rondônia, une grève des femmes contre le travail domestique qui vient s'ajouter à celui des champs, en forme paradoxale de convergence des luttes pour chambouler rôles et casseroles. Un des articles raconte la naissance et cite de larges extraits du journal de sans-abri de Baltimore, Street Voice. L'un d'eux dénonce les mythes répandus sur le pauvre et le sans-abri. D'un côté, ceux qui rendent les pauvres responsables de leur situation. De l'autre, ceux qui les présentent comme de pathétiques victimes de l'économie, sans intelligence de leur état ni volonté propre. Avec en prime cette pensée de Bertrand Russell, l'éthique du travail sert les riches, pas les pauvres. Vous écoutez France Culture, il est 7h moins le quart. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, cette question de qui a peur le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Depuis qu'il a fait tomber en 2013 le président élu à la faveur du printemps arabe Mohamed Morsi, président civil issu des frères musulmans, Abdel Fattah al-Sissi, ex-général de l'armée, n'a jamais renoncé à la répression de l'opposition. Alors à nouveau, à l'occasion des manifestations qui les deux derniers vendredis ont demandé son départ, que ce soit place Tahrir au Caire mais aussi dans d'autres villes d'Égypte, le régime d'Abdel Fattah al-Sissi procède à des arrestations massives. Plus de 2000 personnes ont été interpellées en marge de ces manifestations, aussi bien des figures iconiques de la révolution de 2011 que des avocats, des opposants politiques, des journalistes, des blogueurs, mais aussi de simples citoyens qui s'étaient risqués à un poste sur les réseaux sociaux. Déploiement sécuritaire à travers toute l'Égypte que les correspondants de la presse sur place disent hors normes, comme si les forces de l'ordre étaient aux abois. Bonjour Anne-Clémentine Larocque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence en questions internationales à Sciences Po. Alors tout le long de cet entretien, je vais vous demander de qui a peur le président égyptien. A-t-il peur d'abord de la rue égyptienne? Ces manifestations qui se déroulent chaque vendredi depuis le 20 septembre et a priori ce vendredi encore, peuvent-elles lui rappeler en ampleur et en revendication exprimée celles de 2011 qui ont eu raison d'Hosni Moubarak?
Alors effectivement, le président Abdel Fattah al-Sissi n'a pas forcément peur de la rue, mais de l'instrumentalisation de la rue par ses opposants politiques qui restent, vous le savez, en fait son obsession. Et c'est vrai que ses opposants sont quand même différents et diversifiés, c'est-à-dire que vous avez les frères musulmans d'un côté qu'il a véritablement stigmatisé depuis la fin 2013, et puis vous avez effectivement aussi tous les partisans des opposants de manière générale, avec des opposants de gauche qui profitent aussi un petit peu de cet espace pour montrer et démontrer encore une fois le caractère autocrate en fait de ce pouvoir d'Al-Sissi, et puis tous ceux qui peuvent effectivement pour lui en tout cas incarner une possibilité de reprise du pouvoir.
Parce que vous pensez, Anne-Clémentine Larocque, que ces manifestants, ces Égyptiens qui vont dans les rues du Caire et ailleurs, Alexandrie, Suez et autres, avec des revendications sociales essentiellement, un tiers des Égyptiens vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, qu'ils peuvent être instrumentalisés par l'opposition? Ils le sont?
Alors, il le vit comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ces personnes sont des gens du peuple qui suivent les vidéos, vous savez, et les messages envoyés d'Espagne par le fameux
Mohamed Ali,
absolument, qui est aussi donc quelqu'un qui a travaillé avec l'armée, donc pendant 15 ans, qui a souscrit des contrats avec l'armée, qui a réalisé des choses pour l'armée, et donc qui a une légitimité pour le peuple à dire, eh bien oui, le régime est corrompu. Donc dans ce sens-là, effectivement, on peut penser à une instrumentalisation d'autres effectivement factions de l'armée éventuellement, ou de l'opposition, en tout cas ce sur quoi il communique, alors, en disant qu'il est victime d'un complot quelque part, et qu'effectivement on veut attaquer son image.
Donc on peut approfondir cette question-là, de qui a peur le président égyptien? Peut-il avoir peur de ce Mohamed Ali, donc homme d'affaires égyptien exilé en Espagne, qui dénonce la corruption au sein de l'armée et les sommes d'argent colossales que le pouvoir dépense pour faire construire des palaces, qui a l'air quand même très informé, bien, je sais pas, il a aucune preuve de ce qu'il avance, mais très informé, il donne beaucoup de détails. Qui peut-il être? Quel rôle peut-il jouer? Est-ce qu'il faut minimiser ou au contraire son importance, ou au contraire la mesurer à sa juste valeur?
Alors manifestement, les Égyptiens regardent par milliers ces vidéos et en tout cas entendent son discours, le discours de quelqu'un effectivement qui ne veut pas justement se montrer au-dessus des Égyptiens ou dans un sérail quelconque alors qu'il appartient au départ à ce sérail. Il a des mots simples, il a une attitude effectivement assez velléitaire dans le sens où il a un ton qui montre sa colère, il se met du côté du peuple, il dénonce cela alors, c'est ça qui est paradoxal, d'Espagne où il s'est exilé. Hein. Et effectivement, cet homme qui aussi a participé, je crois, à un sitcom, donc a aussi eu des velléités d'être dans une forme de cinéma, a été vu et regardé. Bon, il a acheté toutes les parts de marché apparemment pour être sûr que ce soit diffusé. Cet homme est assez énigmatique et on a l'impression effectivement qu'il sort un peu du chapeau pour pouvoir effectivement donner du mal à Al-Sisi. Ce qu'il faut quand même considérer, c'est qu'Al-Sisi a répondu à ces allégations en se justifiant et en disant qu'effectivement il avait fait construire certaines choses, mais pour le bien de l'Égypte et pour évidemment sécuriser sa famille, etc. Donc il y a une réponse donnée, ce qui justifie qu'il entend l'interlocuteur, si vous voulez. Il le prend en compte en tout cas. Qu'il en ait peur, ce serait justifié, puisqu'effectivement la grogne sociale en fait qui existe, c'est pas depuis Mohamed Ali, elle existe depuis 2013, elle existe depuis 2011, et ce que demandent les Égyptiens, c'est d'avoir des infrastructures, c'est d'avoir aussi effectivement des perspectives pour cette jeune génération, incarnée quand même par plus de 50% de la population.
Entre parenthèses, l'Égypte s'est vue verser en 2016 une aide du Fonds monétaire international, 12 milliards de dollars, avec les habituelles contreparties qui vont avec, des mesures d'austérité.
Exactement.
Et ça fait partie, donc, fait partie des choses qu'on entend dans les rues égyptiennes contre les mesures d'austérité.
En tout cas, ouais, la population voit bien que le plan d'austérité est en marche avec effectivement cet accord du FMI. Il aimerait bien savoir effectivement ce qui se passe vraiment. Bon, il y a le Grand Caire qui a été investi au niveau de cet argent. Il y a aussi le nouveau canal de Suez. Donc, Al-Sisi investit dans des secteurs qui sont porteurs, mais aussi porteurs pour l'armée. Vous savez qu'on parle quand même aussi d'une mainmise de l'armée par rapport au poids dans l'économie très importante, hein. Une part difficile à vérifier, une part difficile à quantifier, mais certains disent qu'il y aura 40 à 80% quand même de l'économie qui bénéficierait à l'armée égyptienne.
Alors,
c'est quand même colossal.
Anne-Clémentine Larocque, justement, de qui a peur le président égyptien? Peut-il avoir peur de l'armée dont il est issu, qui est aujourd'hui son principal soutien, mais dont on voit dans les pays voisins, notamment le Soudan, qui est son pays voisin frontalier du Sud, l'armée qui a fini par changer d'avis et chasser Omar el-Béchir sur pression de la rue? Est-ce que Al-Sisi peut avoir peur de ce scénario-là en Égypte?
L'armée en Égypte, effectivement, a un poids absolument énorme. C'est la plus grande armée d'Afrique. C'est une armée qui s'est reconstituée à partir des années 70 sous la présidence de Sadat. C'est une armée qui, effectivement, est devenue donc un acteur absolument incontournable après les accords de Sharm el-Sheikh en 1978. Elle a continué, effectivement, d'incarner donc le pouvoir, finalement, en Égypte, sous Moubarak et maintenant sous Al-Sisi depuis 2013. Donc, oui, Sisi, même s'il est le maître dominant de cette armée, peut toujours craindre évidemment un retournement. D'autant qu'effectivement, au Soudan par exemple, Omar el-Béchir s'est fait déposer par l'armée en avril dernier. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la contestation. Regardez ce qui se passe aussi en Algérie. Hein. En Libye, l'armée se confronte aussi.
En Algérie, c'est quand même toujours le chef d'état-major Gaïd Salah qui fait et qui défait les présidents. C'est peut-être le contre-exemple ou pas?
Oui, mais justement, c'est Il y a aussi des hommes de l'ombre qui peuvent exister dans le régime militaire égyptien que peut craindre justement Al-Sisi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'armée peut être à la fois son allié, effectivement son ennemi de demain.
Mais
ça, il en a totalement confiance.
D'autant que Mohamed Ali essaye, enfin, y réussit-il, je ne sais pas, mais essaye peut-être aussi de diviser au sein de l'armée en parlant des grands chantiers étatiques très lucratifs pour lesquels des généraux se disputent pour avoir des parts. Ouais. Ça pourrait finir par diviser au sein de l'armée.
Bien sûr, il y a d'autres interlocuteurs évidemment et d'autres acteurs qui ont intérêt aussi, peut-être, à ce que Al-Sisi soit mis en danger, voire destitué un jour. C'est absolument évident. Et ça, il ne peut pas l'ignorer. D'où cette volonté aussi d'être dans l'ultra-autoritarisme et dans cette maîtrise du pouvoir qui est bien supérieure, on va le rappeler, encore à la manière dont Moubarak procédait.
Le lien avec le Soudan est intéressant. D'abord, un étudiant soudanais a été arrêté au Caire pendant quelques heures. Je ne sais pas si vous y voyez un lien quelconque, Anne-Clémentine Larocque. Mais par ailleurs, l'Égypte aujourd'hui œuvre diplomatiquement. Est-ce que le Soudan soit désormais reconnu par ceux qui ne le reconnaissent toujours pas ou ceux qui lui ont imposé des sanctions, en tout cas à la faveur de la transition politique au Soudan?
Tout à fait, c'est ça. Les autorités égyptiennes ont libéré un étudiant soudanais qui avait été arrêté. Bon, il faut quand même dire qu'il y a 2000 personnes, vous l'avez rappelé, qui ont été arrêtées. Depuis 2013, 60 000 opposants ont quand même été arrêtés par le pouvoir d'Al-Sisi. Et effectivement, il y a eu négociation donc dimanche dernier, 29 septembre. Le Soudan a convoqué l'ambassadeur d'Égypte pour protester contre l'arrestation de l'étudiant qui avait pris part aux manifestations. On sent bien qu'évidemment, il se joue quelque chose de politique et de diplomatique. Des dizaines de Soudanais, vous savez, qui sont présents au Caire. Il y a des milliers de Soudanais au Caire. Il y a des dizaines de Soudanais qui ont manifesté aussi à Khartoum pour appeler à la libération de cet individu. Et effectivement, ce risque de prise, vous voyez, entre les deux pays de la grogne sociale inquiète beaucoup les Soudanais qui tentent de gérer et de contenir la situation explosive depuis avril dernier. Et ça a joué, évidemment, sur la libération de ce Soudanais. Hein, parce que finalement, quand vous regardez le nombre d'Égyptiens qui ont été arrêtés, pourquoi un Soudanais serait libéré? On a vraiment une dimension, effectivement, politique et géopolitique derrière.
Anne-Clémentine Larocque, de qui a peur Al-Sisi? A-t-il peur des frères musulmans bannis depuis 2013? Vous nous avez dit en début d'entretien que l'opposition pouvait, d'une certaine façon, profiter de ces manifestations pour les encourager encore et les alimenter. Les autres partis d'opposition sont divisés. Bon, il faut dire que 40 000 aussi membres des frères musulmans ont été emprisonnés depuis 2013 aujourd'hui. Donc j'ai passé toute l'émission à vous demander de qui a peur Al-Sisi, mais a-t-il vraiment peur, à votre avis, Anne-Clémentine Larocque? Est-ce que vous analysez les quelques 2000 arrestations d'Égyptiens et de Soudanais, entre autres, comme l'acte de défense d'un régime aux abois?
Un autocrate ne doit pas avoir peur, donc il ne doit pas manifester effectivement de signes de faiblesse. Le fait qu'il arrête en masse, pour moi, ce n'est pas un signe de faiblesse, puisqu'il pratique ça depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2013. En revanche, qu'il ait effectivement une peur du mouvement social qui puisse émerger après le visionnage des vidéos de Mohamed Ali, qui réenclenche encore une fois les doléances des Égyptiens qui veulent du développement, ça c'est une autre question. Par rapport aux opposants des frères musulmans...
Oui, en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, on arrive à la fin de l'entretien.
Ils ont été donc qualifiés d'organisation terroriste fin 2013, vous le savez. Il y a des doléances de la part des frères musulmans qui sont emprisonnés actuellement sur leurs conditions. Le chef des frères musulmans est exilé à Londres, Ibrahim Mounir, et a refusé en fait de venir en aide justement à ses frères musulmans en Égypte parce qu'il y voit justement une instrumentalisation du pouvoir de Sisi qui utiliserait en fait ses frères pour pouvoir discuter avec eux. Et effectivement, les frères musulmans actuellement sont plutôt divisés et ne veulent pas réintroduire le dialogue totalement avec le pouvoir.
Merci beaucoup Anne-Clémentine Larocque d'avoir pris le temps de nous développer tout ça. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, paru l'année dernière au PUF. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges du 4 au 6 octobre. Au programme de cette 30e édition, plus de 200 rencontres et conférences, expositions, gastronomie, salons du livre, films documentaires et animations autour du thème des migrations et des Caraïbes, région invitée. Le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges à découvrir le 4 octobre dans l'émission Le temps du débat d'Emmanuel Laurentin dès 18h20. Un partenariat France Culture.
Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez toujours un sourire éclatant à 6h57 pour votre humeur du jour, même si c'en est fini du chou-kale.
Oui, enfin presque hein Julie, le chou-kale est en train de rendre l'âme, c'est quand même une bonne nouvelle. Le chou-kale, je dois des explications à ceux qui par chance n'en ont jamais consommé. Le chou-kale, Brassica olearacea, le chou-kale cousin germain du rutabaga, hein, déjà ça décrit le personnage. Le chou-kale traditionnellement destiné à l'alimentation
l'alimentation animale. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. Donc, le chouquel est devenu à la mode, ce qui est la preuve que la mode peut tout. Elle peut rendre désirables les ugly shoes, des chaussures LED. Vous savez, c'est marqué dessus comme le port salut, les ugly shoes, ces baskets à grosses semelles. Elle peut aussi, la mode, rendre à la mode le chouquel, qui a à peu près la texture du tampon Jex, la même couleur, verte. Quant à son goût, il se rapproche plutôt de la partie jaune de l'éponge de cuisine. La seule chose que vous pouvez en faire, c'est tenter de le noyer, votre chouquel, sous une épaisse couche de vinaigrette dans un geste désespéré, ce qui, bien entendu, annule les pseudo-vertus de cette saloperie, de Brassica oleracea. Car figurez-vous, Julie, que le chouquel été paré de 1000 vertus paramédicales. Il faut dire que sur le plan gastronomique, c'était perdu d'avance. Le chouquel est devenu ce qu'on appelle une healthy food, ce qui permet donc de vendre une salade de quelle à 20 €, car une vraie healthy food...
Qu'est-ce que c'est que ça ?
J'avais décidé de marquer 20 €, alors j'ai dit 20 €. Une vraie bonne nourriture qui doit être mauvaise, et le traitement ne fonctionne que si le corps souffre, Julie. L'important, c'est d'être maso, et donc de mâcher en silence. Donc, lequel était à la mode, ce qui posait toutes sortes de problèmes, puisque pour l'éviter, il fallait parfois slalomer serré, vous arriviez à un dîner, vous disiez que vous n'avez pas faim, vous précipitiez à la cuisine pour vous bourrer de pain, pour éviter lequel. Mais aujourd'hui, lequel décline, c'est The Atlantic, le mensuel américain qui me l'apprend. Si l'on en croit les recherches sur Google, l'intérêt pour lequel avait débuté en 2011 grâce à l'actrice Gwyneth Paltrow, qui ressemble plutôt à une endive, mais c'est une autre question, et culminé en 2014, date à laquelle lequel supplante l'épinard sur Google. Dès lors, lequel décline, pourquoi ? Eh bien parce que c'est atroce. Alors la seule manière de manger du kale, c'est de le planquer. On peut par exemple faire du gratin au kale, des pâtes au kale, du risotto au kale. Mais moi, la recette que je préfère, et pas seulement parce que ça rime, c'est le kale à la poubelle.